Décryptage, Marie Casadebé.
Les Catalans commémorent ce lundi la Diada, la fête de la Catalogne, région du nord-est de l'Espagne. C'est le souvenir de la chute de Barcelone le 11 septembre 1914. 1714, considéré comme la date de la fin de l'autonomie catalane. Cette année, les manifestations ont une saveur toute particulière. Carles Puigdemont est le président du gouvernement catalan.
Des millions de Catalans tous les 11 septembre sortent dans les rues de façon pacifique, tranquille et festive pour défendre une idée simple à laquelle nous ne pouvons pas renoncer, qui est le droit que nous avons, nous les Catalans, à décider de ce que nous voulons faire de notre futur et de notre pays. C'est pour cela qu'il faut que cette année, après tant de mobilisations, la réponse soit massive.
Voilà ce que le président de la région a posté sur son compte Twitter pour appeler à la mobilisation. Carles Puigdemont, qui a bien l'intention d'organiser un référendum d'autodétermination le 1er octobre, malgré les recours de Madrid et son opposition farouche. Ce référendum a-t-il une chance d'aboutir? Quelle serait la valeur de son résultat? Quelle est l'histoire du mouvement indépendantiste catalan? Notre invité va nous éclairer. Bienvenue dans Décryptage. Bonsoir Benoît Pellistrandi.
Bonsoir.
Et merci d'être avec nous en studio. Vous êtes historien, spécialiste de l'Espagne contemporaine. Jeudi dernier, le Parlement de Catalogne a donc voté l'organisation d'un référendum d'autodétermination. La Catalogne est aujourd'hui une région autonome d'Espagne, comme 16 autres. C'est le découpage actuel du pays. Mais est-ce qu'elle a le droit d'organiser un tel vote?
Alors, au terme de la Constitution, actuellement en vigueur, non. La Catalogne ne dispose pas de la capacité à convoquer un référendum d'autodétermination, c'est une compétence qu'aucune région n'a. Alors, ce qui s'est passé dans la nuit du 6 au 7 septembre, c'est que le Parlement de Catalogne s'est donné la possibilité de le faire en votant une loi appelant à la convocation de ce référendum dont le résultat sera contraignant. C'est-à-dire qu'effectivement, si une majorité se dégage en faveur du oui, normalement, le gouvernement catalan devra en prendre acte et annoncer la naissance d'une république catalane au lendemain de ce référendum.
Alors, vous l'avez dit, c'est une décision illégale. La réponse de Madrid n'a pas tardé, dès le vendredi. Une réponse alors qui est aussi juridique.
Qui est juridique, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la généralité de Catalogne et le Parlement de Catalogne sont en Catalogne, les représentants de l'État espagnol. Et donc, elles tirent leur légitimité des pouvoirs que la Constitution leur a reconnus et des pouvoirs que le statut d'autonomie de la Catalogne, qui a été modifié et voté en 2006, reconnaît et accorde à ce gouvernement et à ce Parlement. Or, cette compétence de demander un référendum n'est pas ni dans la Constitution, ni dans le statut d'autonomie. Donc, la réponse de Madrid, c'est de dire, voilà, je me trouve avec un pouvoir régional qui est hors des clous de la Constitution. Donc, je demande au tribunal constitutionnel de vérifier la légalité de leurs actions. Et le tribunal constitutionnel a accepté de vérifier cela. Et donc, dans un premier temps, c'est suspensif, c'est-à-dire donc que les lois votées par le Parlement de Catalogne n'ont plus de valeur.
Suspendu en attendant donc une décision définitive.
Une décision définitive qui devrait intervenir dans les 5 mois. Le tribunal dispose de 5 mois pour rendre son arbitrage ou rendre sa sentence. La difficulté, c'est que entre-temps et déjà auparavant, les autorités catalanes avaient récusé le tribunal constitutionnel. Et en réalité, le mouvement indépendantiste et le mouvement nationaliste catalan ne reconnaît plus aucune légitimité au tribunal constitutionnel depuis que celui-ci, en 2010, a censuré le préambule du statut d'autonomie de 2006 qui affirmait que la Catalogne était une nation.
On reparlera de ce virage de 2010, mais ça veut dire, on le comprend bien, que Carles Puigdemont, qu'on a entendu tout à l'heure, est dans l'illégalité et dit pourtant qu'il est prêt à désobéir. Il semble aller avoir envie d'aller jusqu'au bout. Il l'a redit encore aujourd'hui.
On est effectivement dans l'affrontement. Les Espagnols utilisaient l'image de deux trains qui circulaient sur une voie unique et qui allaient à la rencontre l'un de l'autre. Et l'idée était de savoir qui allait freiner en premier. Et pendant longtemps, on a cru que la raison l'emporterait. Et ce qui apparaît très clairement, c'est que le choc aura lieu. Il va être brutal, il va être frontal. Alors, bien entendu, actuellement, le président Puigdemont et tout le Parlement catalan, ainsi que son gouvernement, sont dans l'illégalité. Mais L'argument utilisé par les indépendantistes, c'est qu'ils sont en train de construire la nouvelle légalité catalane. Donc, en réalité, la légalité à venir est la vraie légalité, non pas la légalité ancienne. Donc, on est dans une situation qui, pour un historien, est proprement révolutionnaire.
Alors, il risque gros, le président de Catalogne et tout son parlement, s'il va jusqu'au bout. On se souvient qu'Artur Mas a été condamné à 2 ans d'inéligibilité pour avoir organisé une consultation populaire. Donc, c'est son prédécesseur. Quelle est la différence entre la consultation populaire et là, le référendum que souhaite organiser le président
Alors,
de Catalogne?
Alors, le vote du 9 novembre 2014 était naturellement, tout le monde le savait, impulsé par le gouvernement catalan, mais le gouvernement catalan s'était caché derrière des associations militantes, et notamment l'Assemblée nationale catalane. Donc, le gouvernement de Madrid avait invalidé ce référendum, Artur Mas avait dit « on laisse faire, puisque de toute façon, c'est pas nous qui organisons ». Alors, c'est vrai que ce n'était pas apparemment le gouvernement catalan qui est organisé, mais par exemple, une question très concrète, il faut ouvrir des collèges électoraux. Les collèges électoraux, ce sont des lycées, des établissements scolaires. Il y a un principal de collège qui a dit « moi je refuse d'ouvrir mon établissement, je n'ai pas d'ordre écrit » et qui a demandé à l'administration catalane « donnez-moi un ordre écrit d'ouvrir ». Elle n'a jamais eu son ordre écrit. Parce qu'effectivement, s'il y avait eu un ordre écrit, ça prouvait que c'était le gouvernement qui l'organisait.
Là, en l'occurrence, pour le référendum du 1er octobre, ils vont devoir s'organiser comme une élection totalement légale, avec des urnes, des bulletins et des bureaux de vote.
Voilà. Et c'est d'ailleurs ce qui est en train de devenir problématique, puisque la capacité d'ouvrir ces bureaux de vote appartient aux maires. Et actuellement, vous avez un certain nombre de maires, notamment de maires socialistes, qui refusent de prêter des locaux pour la tenue de ce référendum, notamment à Tarragone ou à l'Hospitalet. L'Hospitalet est quand même la seconde ville de Catalogne.
Et le Premier ministre espagnol aussi a prévenu que eux aussi risquaient gros à suivre le mouvement et à participer à ce référendum. Un élu qui ouvrirait justement sa mairie pour un vote risquerait des poursuites judiciaires.
Risque des poursuites judiciaires et donc effectivement l'inhabilitation et l'inéligibilité. C'est d'ailleurs intéressant parce qu'à Barcelone, tout le monde est en train d'attendre la décision de la mairesse de Barcelone, Ada Colau, qui est une figure emblématique de la vie politique catalane, et qui, elle, a prévenu qu'elle ne voulait pas exposer les fonctionnaires municipaux à des poursuites. Car le gouvernement central a fait savoir que si effectivement des fonctionnaires qui doivent loyauté et doivent respecter la loi se trouvaient en position d'illégalité, il y aurait aussi des poursuites contre eux qui pourraient aller jusqu'à la suspension du salaire, voire l'expulsion de la fonction publique. Donc il y a effectivement, et c'est l'argument que Mariano Rajoy utilise, toute la force de la loi qui peut s'abattre sur soit les responsables politiques, soit les fonctionnaires qui collaboreraient à l'organisation matérielle de ce scrutin du 1er octobre.
On va entendre justement le Premier ministre espagnol, des propos qui remontent à quelques mois, mais qui sont toujours d'actualité.
Ni moi, ni aucun chef de gouvernement en Espagne n'acceptera la destruction de la souveraineté nationale, de notre histoire et de notre unité. Et nous ne laisserons pas aux Catalans la possibilité de choisir entre être catalan, être espagnol ou être européen, puisqu'ils sont déjà catalans, espagnols et européens.
Benoît Pellistrandi, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la position du Premier ministre espagnol? Elle paraît vraiment très ferme par rapport à ce désir d'indépendance de certains Catalans.
Oui, elle est très ferme pour deux raisons principales. La première, c'est que constitutionnellement, le chef du gouvernement est là pour faire respecter la Constitution. Donc, il n'a pas d'autre partition. Il ne peut pas effectivement dire « oui, allez-y, organisez ce référendum, je suis tout à fait d'accord ». Puis, il y a une seconde raison qui est le corpus idéologique de Mariano Rajoy, qui est à la tête du Parti populaire, qui est le Parti conservateur, attaché à l'unité de l'Espagne, respectueux de la forme qu'a l'État aujourd'hui en Espagne, qui est un État très décentralisé, mais profondément attaché à cette unité espagnole. Et c'est intéressant parce que dans le son que l'on vient d'entendre, il a bien dit « les Catalans sont déjà Catalans, Espagnols et Européens ». Et donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas aller au-delà. Par ailleurs, il y a une autre difficulté que pointe Mariano Rajoy, c'est que la souveraineté appartient à l'ensemble des Espagnols. Et donc, on ne peut pas dire que vont prendre la décision de quitter la Catalogne uniquement les électeurs inscrits en Catalogne.
Il faudrait que tous les Espagnols, en fait, se prononcent.
Il faudrait que tous les Espagnols se prononcent. Ce qui d'ailleurs pourrait conduire à un résultat complètement paradoxal. Vous pourriez tout à fait avoir un résultat favorable à l'indépendance de la Catalogne, majoritaire dans le reste du pays, et minoritaire en Catalogne. Car les sondages montrent actuellement qu'il y a un sentiment légèrement majoritaire contre l'indépendance en Catalogne.
Est-ce qu'il existe un dialogue entre Madrid et Barcelone ? Depuis tout à l'heure, on parle vraiment d'un bras de fer. Chacun utilise la Constitution, le droit pour se défendre. Est-ce qu'il y a un dialogue ? Ou est-ce qu'on en vient justement à imposer un référendum parce que c'est l'échec du dialogue ?
Il y a l'échec du dialogue. Ce qui s'est passé depuis une dizaine d'années et on peut même mettre depuis une vingtaine d'années, ce sont des dynamiques qui se sont développées dans le mouvement nationaliste qui ont été très fortes et qui ont donc conduit à cette radicalisation et cette revendication d'indépendance, qui est quelque chose de qui était très marginal et très minoritaire dans le nationalisme catalan. Le grand président de la région Catalogne, Jordi Pujol, entre 1980 et 2003, était très habile parce qu'il savait parfaitement construire cette autonomie de la Catalogne et était hostile à l'idée d'indépendance.
Quand est-ce qu'elle est née alors l'idée d'indépendance ?
Elle est née, d'abord, je vous dis toujours, elle a existé dans des mouvements très minoritaires d'extrême gauche. Mais elle était au contraire refusée par la droite centriste qui a gouverné la Catalogne jusqu'en 2003 et qui a repris le pouvoir en 2010. Mais il s'est passé quelque chose, c'est que quand en 1978 on dessine cet état des autonomies, on reconnaît à la Catalogne, au Pays Basque et à la Galice, qui étaient des régions qui avaient déjà disposé d'autonomie sous la Seconde République espagnole, c'est-à-dire entre 1931 et 1939, on leur reconnaît des qualités de régions historiques. Et on leur donne tout de suite beaucoup plus de compétences qu'au reste des régions. Mais l'état des autonomies espagnoles est un état appelé à se développer. Et à la fin du XXe siècle, toutes les régions espagnoles disposent d'une autonomie comparable. Et c'est à partir de ce moment-là que Jordi Pujol dit « ça pose un problème parce qu'il y a eu, c'est l'expression espagnole, café para todos, du café pour tous, mais nous, Catalans, nous sommes différents. » Et donc, il y a on vient demander davantage pour que la spécificité catalane continue d'exister au sein de cet ensemble espagnol décentralisé.
On y vient à cette spécificité catalane.
Parce que nous sommes catalans de par la langue, la culture et pour notre manière de fonctionner dans le monde. Et ça, l'Espagne ne le comprend pas et ne le comprendra jamais. C'est donc l'heure du divorce.
Alors, quelles sont ces spécificités catalanes ? Ce militant indépendantiste le dit déjà, il parle de culture et de langue. Est-ce que la langue, c'est déjà un premier caractère très fort des Catalans ?
Très fort.
Il faut expliquer peut-être à nos auditeurs qu'on parle majoritairement catalan et non espagnol en Catalogne.
On parle majoritairement catalan parce qu'il y a eu tout un travail d'éducation et d'apprentissage du catalan. Sous la Seconde République, on y faisait allusion tout à l'heure, les compétences d'enseignement ne sont pas reconnues aux régions. Donc la Catalogne n'a pas la compétence de l'enseignement. En revanche, en 1978, au moment du compromis historique qui conduit à la démocratie, le président Suárez reconnaît à la Catalogne les compétences en matière d'enseignement. Et du coup, vous avez 40 ans d'éducation en catalan, et avec aussi une histoire qui est proposée par les nationalistes catalans et qui finissent par construire une nation catalane et une sensibilité catalane. Il serait complètement absurde de dire qu'il n'existe pas une sensibilité catalane. Alors, d'ailleurs, quand vous regardez les chiffres que donne la généralité elle-même, ce sont les jeunes qui aujourd'hui parlent le plus majoritairement catalan, alors que les personnes âgées sont celles qui comprennent et parlent le moins bien le catalan.
On doit comprendre que l'identité catalane est finalement assez récente ?
Oui, elle est relativement récente. D'abord, parce qu'elle a été réinventée au 19e siècle, comme dans beaucoup de nationalismes. On peut dater très précisément, c'est 1859, et le mouvement de renaissance de la culture catalane, qui était une culture orale, agricole, et qui va devenir une culture érudite de la bourgeoisie catalane. Et du coup, cette culture-là va profiter du fait que la Catalogne est une région plus riche que les autres au début du XXe siècle et pendant une grande partie du XXe siècle, et qui va avoir le sentiment progressivement finalement d'être noyée dans effectivement ce développement spectaculaire de l'Espagne dans la seconde moitié du XXe siècle. Donc il y a un complexe catalan pour se situer par rapport aux autres Espagnols.
Comment on pourrait alors qualifier les Catalans ? Qu'est-ce qu'ils ont parlé de la langue ? Quelles sont leurs autres spécificités ?
Alors, il y a la langue, il y a le territoire, mais il y a du coup la revendication d'une Catalogne qui n'a jamais été réellement indépendante, qui a toujours été dans un ensemble plus vaste. C'était la couronne d'Aragon, qui comprenait effectivement l'Aragon, qui est une région à l'ouest, de la Catalogne, et puis la communauté valencienne. Ce qui est très compliqué, c'est que effectivement, les Catalans et le nationalisme catalan, il est nourri d'un imaginaire national relativement récent dont on peut faire l'archéologie. Un exemple, l'hymne national catalan a été rédigé en 1899. Donc l'hymne El Sesgador, qui raconte la révolte des Catalans contre le roi Philippe IV de 1640, est un travail d'érudit de la fin du 19e. Et puis, il y a une autre complication, c'est que s'il y a un imaginaire commun, il y a des stratégies politiques complètement différentes selon que vous êtes à l'extrême gauche, à la gauche ou au centre droit. Vous avez un nationalisme démocrate chrétien, vous avez un nationalisme républicain et vous avez aujourd'hui un nationalisme ultra-radical d'inspiration bolchevique.
Et ce qu'il faut préciser, c'est que la coalition aujourd'hui qui demande l'organisation d'un référendum d'autodétermination est très éclectique, justement. Ça va d'un extrême à l'autre.
Oui, ça va du nouveau parti anticapitaliste, l'équivalent du nouveau parti anticapitaliste, jusqu'à ce qui serait l'UDF en France. On a donc, en réalité, à partir de 2015, la construction de cette coalition qui s'appelle Junts pel Sí, Ensemble pour le Oui, qui a gommé les différences idéologiques et où vous avez les deux grands partis, anciennement Convergence et Union, Jordi Pujol, devenu le Parti démocrate de Catalogne, et Esquerra Republicana de Catalunya, la gauche républicaine catalane, qui sont les deux ennemis intimes du nationalisme et qui se sont retrouvés ensemble pour effectivement aller vers l'indépendance.
Benoît Pellistrandi, est-ce que l'Espagne risque beaucoup à voir la Catalogne devenir indépendante ?
En réalité, elle ne risque pas grand-chose parce qu'on est quand même dans des scénarios d'histoire-fiction. L'indépendance de la Catalogne, ça peut arriver. L'historien ne peut absolument pas dire non, ça n'arrivera jamais. Ça peut arriver, c'est envisageable, mais ce sera au terme d'un processus qui aura été long, compliqué et douloureux. Donc, je dirais, si indépendance il y avait, ce serait d'abord un choc traumatique et un choc politique. Mais là où l'Espagne a beaucoup à perdre en ce moment et la société catalane avec l'ensemble de la société espagnole, c'est que on a fait monter la tension à un degré extrême qui fait que les conditions d'un conflit sont aujourd'hui réunies. Et avec le conflit, tout ce que ça peut entraîner, y compris en termes de balkanisation, je donne l'exemple, depuis vendredi dernier, le petit parti radical, la candidature d'unité populaire, réclame 4000 km² à l'Aragon pour corriger des frontières qui datent de la fin du 19e.
Est-ce que cette crainte de l'Espagne aussi ne se joue pas sur le volet économique ? La Catalogne est une région très riche.
Non, parce que, la Catalogne est une région riche, c'est vrai, mais l'Espagne n'a pas à craindre la sécession de la Catalogne. C'est plutôt la Catalogne qui risquerait gros en quittant l'ensemble espagnol. D'abord parce qu'elle serait hors de l'Union européenne, ça, Bruxelles l'a dit, l'a répété, que ce soit la Commission ou que ce soit le Parlement européen. Mais ensuite, c'est que cette restriction d'un marché catalanophone de 7 millions d'habitants est beaucoup moins intéressant qu'un marché espagnol beaucoup plus large. Juste un exemple, le marché éditorial espagnol est essentiellement basé à Barcelone. Les grandes maisons d'édition, elles commencent à se délocaliser vers Madrid parce qu'elles publient en castillan, et en castillan vous avez 400 millions puisque c'est aussi l'Amérique latine et c'est pas simplement 7 millions.
Pour conclure, Benoît Pellistrandi, si le 1er octobre ce référendum d'autodétermination était maintenu, est-ce que vous avez une idée du résultat ? Est-ce que l'on connaît justement ce sentiment indépendantiste ?
Il y a des enquêtes, l'enjeu serait la participation, les indépendantistes souhaitent qu'elle soit plus forte que celle du 9 novembre, donc on sait où est le curseur, 2,3 millions de personnes qui auraient voté le 9 novembre. Et 80% de oui. La seule difficulté, c'est qu'il faudrait qu'on ait toutes les garanties pour que le résultat puisse être reconnu comme valable, puisqu'actuellement, on n'a pas les listes des électeurs.
On en reparlera donc le 1er octobre ou le 2. Merci beaucoup, Benoît Pellistrandi, d'être venu en studio. Historien spécialiste de l'Espagne contemporaine, merci à Arthur Tossou qui m'a aidé à préparer cette émission et Fabrice Jollet à la réalisation de Décryptage.